Amen. Gloire à Dieu. Voilà pour ce premier culte de cette nouvelle année. Voilà, nous bénissons Dieu et que nous souhaiter les uns les autres. Le meilleur, bien sûr, les meilleurs vœux. On rajoute les meilleurs vœux dans le Seigneur, qu'ils soient spirituels, mais encore plus précisément, que nous souhaiter, si ce n'est de nous rapprocher de Dieu. Si ce n'est de mieux le connaître, si ce n'est de mieux l'aimer, mieux goûter son amour et avoir une vision plus grande du Seigneur, plus belle, plus précise. Voilà, que le Saint-Esprit puisse avoir cet accès dans nos vies pour nous révéler ces choses. C'est tellement beau, c'est tellement bon quand l'auteur Pierre dira, pour ceux qui ont goûté, combien le Seigneur est bon. Il est vraiment bon, notre Dieu. Alors j'aimerais lire avec vous dans l'Évangile de Jean, d'abord, Évangile de Jean, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 12. Bien sûr, tout le chapitre 15 est intéressant, et on va à partir du verset 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je rajouterai une deuxième lecture dans la première épître de Jean, voilà, toujours le même auteur, première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Voilà, nous avons vu pendant plusieurs dimanches notre mission, notre vocation de témoin, c'est l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle tous. Il n'est pas dit « vous deviendrez mes témoins », mais le jour de la Pentecôte, Jésus a dit « vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins », à la réception donc du Saint-Esprit. Mais il y a un autre appel que j'aimerais voir avec vous, on va débuter ce matin, mais un autre appel est... Peut-être c'est le plus important, j'aurais dû commencer par là, parce que l'autre dépend de celui-là, c'est l'appel à une communion intime avec le Seigneur, à une relation de proximité, à cette connaissance de Dieu et de recevoir de lui pour retransmettre. L'apôtre Paul dira, nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu du ciel. Et je crois que le Seigneur a beaucoup de choses à nous communiquer. Il a beaucoup de grâce à nous communiquer. Ah, si on comprenait tout à coup ce que le Seigneur veut nous donner, nous révéler, mais c'est extraordinaire, c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux ce que le Seigneur veut nous communiquer. L'appel à la communion, c'est là le plus grand désir de Dieu. Le plus grand désir de Dieu. Alors, quand nous pensons à Dieu, nous avons différentes images de Dieu ou conceptions de Dieu. Peut-être quelqu'un ce matin au milieu de nous ne connaît pas du tout Dieu, ne connaît pas la parole, n'a pas eu de contact avec Jésus. Et peut-être il y a une image qui est déformée du Père. Peut-être certains ont eu Père terrestre qui était peut-être dur, le Père étant absent. Toutes sortes d'images et nous voulons réaliser que Dieu n'est pas comme le Père humain. Parce que certains transposent l'image du Père humain ou le Père absent. Le Père humain qui a peut-être été dur, il a fait ce qu'il a pu, mais peut-être il a été dur ou il a eu des défauts et nous transposons cette image. Non, la Bible nous révèle comment est le Père. La Bible nous révèle comment est Dieu, ce qu'il est, ce qu'il est véritablement. Alors, une relation de plus en plus étroite, profonde, proche, durable avec notre Seigneur. Nous avons, bien sûr, dans la Bible des exemples, et je souligne souvent cela, mais c'est important. Nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu, qui ont expérimenté, parce que sinon on pourrait dire c'est théologique, c'est tellement éloigné, c'est tellement que nous ne pouvons pas vivre cela en 2021, on se trompe pas, 2021, on peut pas vivre ces choses parce que nous vivons dans une société qui a changé, nous ne pouvons pas vivre. Eh bien, la Bible nous montre qu'en tout temps, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a eu des hommes et des femmes qui ont vécu une communion proche, intime avec le Seigneur. Oui, c'est réalisable. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a ouvert la voie, qui nous a tracé le chemin, qui a rendu le chemin praticable. C'est Dieu. C'est pas nous qui avons pris l'initiative. La religion, c'est les efforts de l'homme pour s'approcher de Dieu. Mais la grâce, c'est Dieu qui s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et c'est toute la différence, donc le Seigneur veut, c'est son désir, et si formuler un vœu cette année 2021, comme toujours, c'est un vœu que nous soyons plus proches de lui, pour mieux l'entendre, pour mieux le saisir, pour mieux réaliser qui il est, expérimenter, afin que nous puissions vivre mieux. Plus nous vivons proches de Dieu, mieux nous vivons. Eh oui. C'est important de le réaliser. Donc, nous ouvrons ce volet. Donc, dans la Bible, eh bien, nous avons des exemples. L'exemple de Jean, par exemple, dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit les deux textes que nous avons lus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Jean faisait partie des disciples, des 70, mais il faisait partie des 12. Et dans les 12, il faisait partie des 3. Et dans les 3, il a été celui qui a été encore plus proche du Seigneur. Alors on se dit, mais il y a des grades, non, pas du tout, il y a des relations particulières des uns et des autres avec le Seigneur, il nous invite tous, il nous aime tous de la même manière, le sacrifice de Jésus est le même pour tous, le salut est le même pour tous, mais ensuite, eh bien, je ne sais pas de quoi ça dépend, mais ça dépend déjà de notre soif, de notre désir, de notre détermination de pouvoir nous approcher davantage de lui. Et là, dans les 12, eh bien, Jean est celui qui était plus proche. D'ailleurs, Jésus dira le disciple que Jésus aimait. Mais il les aimait tous. Mais il dit le disciple que Jésus aimait, Jean. Jean était proche et nous voyons, bon, il y a des exemples dans la parole, donc il faisait partie de ces trois, des plus proches de Jésus. Ils ont vu des choses que d'autres n'ont pas vues, mais par exemple la montagne de la Transfiguration où Jésus a été transfiguré, ça les a marqués à vie. comme nous l'avons vu 16 ans après, l'apôtre Pierre, eh bien, est encore marqué par cette expérience. Il ne l'a pas oubliée. Elle a marqué sa vie. Il en parle dans des termes vraiment beaux. Nous avons aussi dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, verset 23, un des disciples, voilà, là c'est là où c'est noté, celui que Jésus aimait était couché sur le sein de Jésus. Bien sûr, c'est une image, on va dire, c'est physique, il était proche contre lui, mais ça démontre aussi, d'une manière spirituelle, combien Jean était proche de Jésus. Jésus les aimait tous, comme on l'a dit, du même amour, mais avait une proximité avec certains. Et cette scène s'est passée au même moment où Judas était en train de trahir Jésus. Vous rendez compte, ils sont tous les deux, font partie des 12, ils sont tous les deux proches de Jésus, ils sont dans la même réunion, j'allais dire intime, c'est le moment où Jésus va laver les pieds des disciples, c'est un moment particulier, ils sont là. Un est en train de trahir Jésus, il a de mauvaises pensées, et l'autre est contre Jésus pour manifester encore cet amour. Et voilà. Donc il y a des relations différentes. Et Jésus a choisi les 12, il a choisi même Judas, sachant ce qu'il allait faire. Il l'a quand même choisi. Quand nous regardons de près l'exemple de Jean, l'évangile de Jean est différent des 3 autres. Matthieu, Marc et Luc, ce sont les évangiles synoptiques, il y a les mêmes miracles à peu près qui sont cités de manière des fois légèrement différente, mais on appelle évangile synoptique, on peut les mettre en parallèle, mais l'évangile de Jean est tout autre. Il est tout autre. Et quand nous regardons les écrits de la première, deuxième et troisième épître de Jean, et quand nous regardons l'Apocalypse, quelle révélation cet homme de Dieu, quelle révélation il a eue de la part de Dieu. Et quand il était sur cette île de Patmos, au lieu de se morfondre, il va être en bénédiction non seulement pour ceux qui ont reçu cette lettre de l'Apocalypse, mais aussi pour nous, en bénédiction. 20 siècles après, alors qu'il était déporté sur cette île de Patmos, il va être encore un instrument de bénédiction. Combien c'est bon d'avoir une proximité avec Dieu. Une proximité avec Dieu. Je ne parle pas de croire en Dieu. J'espère et je pense que nous croyons tous en Dieu, c'est pas ça, même pas d'avoir donné son cœur au Seigneur, c'est important, mais d'avoir une relation de proximité avec Dieu. Un autre exemple dans le Nouveau Testament, qui est cité dans le Nouveau Testament, mais dont il a vécu dans l'Ancienne Alliance, dans Jacques au chapitre 2, verset 23, il est dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » C'est quand même ami de Dieu. C'est pas rien, hein. C'est pas un croyant simplement, c'est un ami de Dieu. Alors nous avons quelques faits, bien sûr nous n'entrerons pas dans les détails, c'est juste l'introduction que nous avons, mais par exemple dans la Genèse au chapitre 18, et je crois que j'ai noté la référence, Genèse 18, 17, il est dit « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Moi ça m'étonne toujours de la part de Dieu, alors qu'il a résolu de juger les villes de Sodome et de Gomorre à cause de leur abomination, à cause de tas de choses qui ont été commises, eh bien le Seigneur était en train de penser à exécuter son plan, c'est-à-dire juger par le feu les villes de Sodome et de Gomorre. Alors qu'il est en train de penser à cela, il dit « Mais non, je ne peux pas faire ça sans en parler à Abraham. » Quand on lit ça, ça nous semble, voilà, bon, on le lit, Mais quand on imagine la scène, Dieu qui a tout pouvoir, toute autorité, qui est souverain, qui n'a besoin de personne, qui son plan est parfait, et même les jugements sont parfaits, les jugements de Dieu, et quand il pense à ça, il dit non, je ne peux pas le faire, il faut que j'en parle à mon ami, à Abraham. Imaginez la relation de proximité, alors que c'est dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, la relation de proximité entre Abraham et Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, la notion d'ami est quelque peu galvaudée ces dernières années, parce qu'il y a tellement d'amis virtuels, d'amis, on peut être ami sans se connaître maintenant, c'est bon. Mais Dieu n'a pas des amis virtuels, mais ils sont réels. Voilà, c'est. Je ne vous appelle plus serviteur, dit Jésus, mais je vous appelle ami. Ami. En ce début d'année 2021, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi ne pas se souhaiter les uns les autres une relation plus proche avec le Seigneur, mieux le connaître, mieux l'aimer, mieux le servir. Et dans cette introduction, nous devons certainement nous poser quelques questions qui vont nous aider les uns les autres à évaluer où nous en sommes avec le Seigneur, mais ça c'est personnel bien sûr, mais il faut qu'on se pose des questions les uns les autres, mais où est-ce que j'en suis avec le Seigneur? Peut-être on fait tellement tout, j'allais dire entre guillemets, machinalement. On peut même lire la Bible machinalement et prier machinalement, mais ça c'est pas le désir de Dieu, et la nature humaine elle est comme cela. Mais nous pourrions nous poser quelques questions les uns les autres pour savoir jauger, savoir où nous en sommes, à quel point je me sais proche de Dieu ou je me sens proche de Dieu comme on veut, à quel point il est près de moi, ou il est éloigné, inaccessible peut-être. Est-ce que je vis des moments de qualité avec lui, de moments où il me parle, et il me parle beaucoup, parce que Dieu parle. Est-ce que je lui parle beaucoup? Bon, ce qui peut devenir machinal, c'est les sujets de prière, vous savez. Il en faut. Mais pour moi, je dis toujours que les sujets de prière, ça doit être des télégrammes. Voilà, on ne peut pas s'étendre 10 ans sur un sujet, donner les détails, non, non, non. Seigneur, je te prie pour un tel, je te prie pour un tel, il est malade. Seigneur, guéris-le ou sauve-le. On n'a pas besoin de donner tous les détails. Et des fois, on prend beaucoup de temps à donner beaucoup de détails sur des choses. Le Seigneur connaît, il veut que nous puissions lui apporter les sujets. Voilà, point. Mais par contre, est-ce que nous passons du temps? Est-ce que nous avons des choses à dire au Seigneur? Est-ce que nous avons beaucoup de choses à dire au Seigneur? Est-ce que ce sont des moments de qualité? Est-ce que parfois ce sont de longs moments? Parce que nous l'aimons et qu'il nous aime, est-ce que ce sont ces moments-là que nous passons? Nous pouvons nous évaluer par rapport à cela personnellement. Bien sûr, on peut évaluer si on est loin ou si on est plus proche, ce qui sera plus difficile si on est près ou encore plus près. Ça, c'est... Le Seigneur connaît nos cœurs. Mais on sait si nos moments sont courts, si c'est machinal, on doit le savoir, ça. Si on prie machinalement, toujours de la même manière, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes. Si on lit la Bible, voilà, parce qu'il faut la lire, je la lis, et c'est bien, il faut. Mais je pense et je crois que Dieu veut autre chose pour chacun d'entre nous. Il veut que nous prenions plaisir, que nous goûtions combien le Seigneur est bon, qu'il se révèle à nos cœurs et que nos cœurs soient ouverts, mais ça sera dans un deuxième volet, je veux juste introduire ce matin, parce que je crois que c'est bien de vivre bien avec le Seigneur, et si nous vivons bien avec le Seigneur, eh bien ça a une incidence sur notre vie de tous les jours. Ça a une incidence. Vous savez, quand Moïse... Je ne veux pas anticiper, mais quand Moïse avait ce moment avec le Seigneur, il ressortait de la tente d'assignation, il était rayonnant. Il avait parlé avec Dieu, Il s'était entretenu. Il s'était tenu dans la présence de Dieu, et c'est pas banal, il faut pas banaliser ces choses. C'est très très important. Et quand il ressortait, il était rayonnant à tel point qu'il devait mettre un voile pour ne pas éblouir les autres. C'est tellement beau. Ces hommes et ces femmes, il y en a aussi, qui se sont approchés de Dieu plus que la norme et qui ont goûté des choses où Dieu a pu leur transmettre des choses. Les relations que nous avons, bien sûr, nous pouvons prendre exemple sur les relations humaines. Elles sont imparfaites, les relations humaines, c'est sûr. Partout où il y a de l'humain, c'est imparfait. Alors, l'Église parfaite, elle n'existe pas. Parce que nous y sommes. Et nous sommes imparfaits. Et je suis imparfait. Et vous l'êtes aussi. Voilà. Donc, les relations humaines, elles sont imparfaites. Mais ça peut nous donner une idée quand même. Nous sommes quand même différents avec quelqu'un que nous voyons une fois par an comme cela de temps en temps et quelqu'un qui est proche et que nous voyons régulièrement, et notre relation sera différente, nous aurons d'autres choses à nous dire, et plus on est proche, et j'espère et je souhaite aussi que dans les couples il y ait cette communion, ce partage, cette connaissance, bien que, on peut ouvrir une parenthèse, on peut être sous le même toit et être comme des étrangers. Heureusement, c'est des exceptions, mais ça arrive, ça m'est arrivé d'entendre gens dire, mais nous, on est sous le même toit, mais on ne communique pas. On n'a pas tellement de choses, si ce n'est les banalités de la vie. Mais on n'a pas à partager. Alors que c'est le conjoint, c'est l'être le plus proche et le plus intime. Vous imaginez, on peut être sous le même toit et pas se connaître vraiment. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut qu'on soit ensemble et qu'on se connaisse. Mais ça, c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité. Bref rappel, dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas voulu une relation superficielle avec l'homme. Dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3, verset 8, il dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin sur le soir. » Placé dans un cadre magnifique, où il n'y avait rien de négatif, ni dans le jardin, ni dans le cœur d'Adam et d'Ève, rien de négatif. Et dans ce contexte-là, où ils avaient tout, il n'y avait aucun sentiment négatif dans aucun des cœurs, de leur cœur, rien. Et dans ce cadre-là, il y avait la voix de Dieu qui parcourait, Dieu leur parlait sur le soir. Alors j'imagine, je me dis, ils devaient attendre, si c'était que le soir, je ne sais pas, la Bible nous dit, sur le soir, ils entendirent la voix de l'Éternel. Je ne sais pas si tous les soirs ils venaient, ils leur parlaient, mais si c'était le cas, ils devaient se dire, ben, ils n'avaient pas de montre, mais ils devaient se dire, mais à quel moment le Seigneur va venir, hein? Et là, ils se languissaient parce que Dieu allait leur parler. Dieu a toujours voulu cette relation de proximité. Il l'a toujours désirée. Il l'a toujours attendue. Il n'a cessé d'appeler, que ce soit des appels personnels ou des appels à un peuple tout entier. Il a cessé d'appeler pour venir ou revenir à lui. Nous avons l'appel de Moïse, l'appel de Samuel. Vous allez me dire, c'est un appel pour une vocation. Oui, mais Dieu voulait leur parler précisément. Un appel, et Dieu a appelé bien des personnages dans la parole de Dieu, mais l'appel au peuple aussi. Combien Dieu a été attristé quand son peuple se confiait dans les idoles, reportait son affection sur les dieux étrangers. Alors imaginez Dieu qui a le désir d'être au milieu de son peuple, de bénir son peuple, de parler à son peuple, et son peuple se tourne vers les idoles. Imaginez dans le cœur de Dieu la tristesse, parce que Dieu n'a jamais voulu des cœurs partagés, dire « je vous ai sauvés, je vous ai aimés, je vous ai rassemblés, je vous ai... » Et là, vous allez chercher le secours auprès des idoles. Quelle tristesse dans le cœur de Dieu, il y a ce verset qui m'est revenu en méditant, dans Michée au chapitre 6, verset 3, Dieu dit « mon peuple ». Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Waouh, pour que Dieu en arrive là, de dire à son peuple, mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu sois comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai sorti du... Et chaque fois, Dieu rappelle, bien sûr, l'histoire de la délivrance du peuple, de la sortie d'Égypte, etc. Dans le désert, Dieu a pris soin. Et dans plusieurs passages de la Bible, dans les psaumes et dans d'autres passages, même dans les prophètes, Dieu rappelle ce qu'il a fait pour le peuple. Il s'y investit, le Seigneur. Et il le rappelle. Et là, eh bien, Dieu a un procès avec son peuple, hein. Quand vous lisez le contexte, ils sont allés vraiment loin. Dieu a un procès. Vous imaginez une relation que Dieu avait voulu de proximité, une relation d'amour, une relation où il pouvait bénir son peuple, leur communiquer les choses, et eux aller chercher le secours dans des idoles étrangères, dans des dieux étrangers. Il est un Dieu jaloux, dans le bon sens du terme. Béni soit le Seigneur, il nous veut pour lui tout entier. Il veut son peuple tout entier pour lui. Chacun d'entre nous, il nous veut. Il ne veut pas partager. Parce qu'il est le seul qui a payé le prix, hein, et le prix fort à la croix. Il nous a rachetés pour nous avoir avec lui, pour nous avoir près de lui, pour pouvoir nous parler et nous bénir. Il nous a rachetés un grand prix. Imaginez, quand même au milieu du peuple de Dieu, et nous sommes tous tentés aussi, par les idoles modernes. Peut-être elles ont changé de forme et de caractéristiques, les idoles modernes, mais où est-ce qu'on met notre énergie, nos sentiments, notre temps, notre... Dieu voit tout. Mais il ne veut pas que ce soit forcé en disant, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu prennes tant, que tu fasses plus. Non, Dieu veut que ce soit un élan d'amour. Quand nous comprenons l'amour de Dieu, eh bien, nous répondons avec l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand nous réalisons bien la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus, mais il doit y avoir un esprit de reconnaissance qui vienne et renouveler, bien sûr, parce que la vie nous use aussi, la vie nous... Et ça doit être renouvelé par le Saint-Esprit. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus qui avait cette relation de proximité. D'abord avec les 12, la Bible nous dit qu'il les avait choisis pour les avoir avec lui. Nous avons déjà vu ce verset, mais pour les avoir avec lui, avant même qu'il les enseigne, avant même qu'il fasse des miracles, il voulait les avoir près de lui. Et ça a été comme ça tout le long des évangiles, Jésus voulait ses disciples près de lui. Ça c'est beau, hein, c'est rassurant même. Je me dis, quand les disciples marchaient avec lui, oh, ils avaient bien des choses à apprendre, des expériences à faire, mais quand ils marchaient avec lui, de dire, le Seigneur est avec nous, il est là. Alors, nous n'avons rien à craindre. Eh bien non, dans la barque, ils ont craint, mais le Seigneur a été là pour les secourir. Et à des moments importants, Jésus a toujours recherché leur présence. Par exemple, dans Luc au chapitre 22, verset 14, et 15. L'heure étant venue, et quand je vous dis ça, nous pensons à quoi? L'heure étant venue, là, oh, juste vous levez le masque, vous me parlez, vous le remettez. Voilà, d'abord avant la croix, il y a eu la scène. C'est ces moments-là. Et il nous est dit, l'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'était un moment particulier pour Jésus. C'était vraiment un moment particulier. Il savait ce qu'il attendait. Les autres n'avaient pas tout à fait une idée précise, mais Jésus savait ce qu'il attendait. Et il dit, je veux passer du temps avec vous. J'ai désiré vivement prendre ce dernier repas avec vous. Le repas nous parle de l'intimité. Mais également dans le jardin de Gethsémané, vous avez tous en mémoire ce passage dans Matthieu chapitre 27, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi, en ma compagnie. Ce sont des moments extrêmement difficiles, c'était les moments les plus durs pour Jésus. Le jardin de Gethsémané, c'était atroce pour lui. Et il le dit, il était en agonie. Et il dit, dans ces moments difficiles où j'ai besoin de vous, de votre présence, de prier avec moi, ils se sont endormis, c'est la nature humaine. D'ailleurs, le Seigneur leur dira un petit peu plus loin. Jésus leur dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voyez le désir du Seigneur de nous avoir avec lui, de nous avoir auprès de lui, de nous avoir autour de lui. Mais il n'a pas changé ce désir. Il est encore actuel. Le Seigneur veut notre compagnie. Plus que ce que nous devons faire pour lui, il nous veut nous. Il veut notre cœur. Il veut notre amour, notre affection, notre attachement. Il le veut ça. Et de cela découle tout le reste. On peut faire des choses pour Dieu sans que Dieu y soit dedans. Mais quand on est attaché au Seigneur, on est en communion avec lui, on entend sa voix, on fait ce qu'il nous dit et ça porte du fruit. C'est tellement précieux, tellement important pour chacun d'entre nous dans ce siècle où tout va vite, il y a des pressions de partout, on doit faire. Mais le Seigneur nous dit de nous reposer un peu avec lui, prendre du temps avec lui. Vous savez que quand on prend du temps avec le Seigneur, on en gagne. On en gagne beaucoup. Le Seigneur nous renouvelle, il nous fortifie. Quelle grâce de pouvoir vivre un peu cela et on a le désir de le vivre plus. Nous voyons, ouais, comme j'en ai parlé, de Judas qui était là, proche de Jésus, mais son cœur, physiquement, mais son cœur était éloigné jusqu'à être capable de le trahir. Oh. Il était d'accord avec les paroles de Jésus. Peut-être il a dit amen aux paroles de Jésus quand il leur parlait aux 12, quand il les enseignait. Peut-être a-t-il dit amen. C'était un sermon magnifique. Et pourtant son cœur était éloigné. Mais Jésus l'avait choisi, il savait ce qui allait se passer, le Seigneur. Il a, à force d'être double, Judas a laissé la porte ouverte à Satan. Et la Bible nous dit à un moment donné, Satan entra en lui. C'est fort ça, je me dis comment c'est possible d'être endurci à ce point vis-à-vis de Dieu pour que Satan entre. On a toujours des expressions d'oppression satanique, d'attaque, de tentation, mais là il est dit « Satan entra ». Que Dieu nous garde. Et pourtant, ils étaient à côté de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une église entière. Apocalypse 3, nous voyons une église entière qui a mis une distance de plus en plus éloignée d'avec Jésus jusqu'à ce qu'il le pousse vers la porte de sortie. On se demande comment c'est possible. C'est écrit, on le croit, mais on se dit comment est-ce possible qu'une église entière dans l'Apocalypse et d'après certains théologiens, elle correspondrait à l'époque actuelle, mais bon, c'est la dernière église de l'Apocalypse. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas un chrétien dans cette église qui ait une communion avec Jésus? Aucun. Et pourtant, il faisait des œuvres, C'est étonnant. D'ailleurs, Jésus, au verset 20, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ». Il dit même pas « Si l'Église entend ma voix », il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi ». Ça nous parle d'intimité, ça. Ça nous parle d'intimité. Donc une Église entière, là, dans ce contexte, eh bien Jésus n'était plus au milieu, il était dehors et il frappait à la porte. Ça semble paradoxal. On se dit, mais si ce n'était pas écrit, je ne le croirais pas. Mais c'est écrit. Et il faut veiller. bien sûr, les uns et les autres, dans notre relation que nous avons avec le Seigneur, la soigner, la privilégier, prendre du temps, tout seul, chez nous. Il faut prendre du temps parce que ça se construit avec le temps. Même une relation d'amitié entre deux êtres, ça prend du temps, il faut se connaître, ça prend du temps. Et le développement de cette relation avec le Seigneur, ça prend du temps. C'est pas 3 minutes montre en main, ça y est. Ça veut dire quoi? Ben je bâcle, ça m'intéresse pas trop. Non? Ou alors on est dans l'impossibilité d'aller plus loin. Alors il faut demander au Seigneur de nous aider, et il va le faire. Si on demande au Seigneur de nous aider pour ça, il va le faire parce que c'est lui qui le veut. Si on dit Seigneur, voilà, moi j'ai pas vraiment une communion avec toi, j'ai pas une relation de proximité, j'entends pas ta voix quand tu me parles, il n'y a pas de choses précises, j'ai peu de choses à te dire, si ce n'est des sujets qui reviennent toujours, mais sinon, à part ça, j'ai pas de choses à te dire. Mais disons-lui au Seigneur la vérité, ouvrons notre cœur au Seigneur, disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de l'action de ton esprit dans mon cœur, dans ma vie. Et il le fera. Non plus de choses de machinales, non, Dieu veut une relation de proximité. Est-ce à dire qu'il faut être parfait pour avoir une relation de proximité? Non, il ne faut pas être parfait parce que c'est lui qui fait l'œuvre en nous. C'est lui. Nous, naturellement, on ne peut même pas s'approcher de Dieu, naturellement. Mais grâce au sacrifice de Jésus, eh bien nous pouvons, et Dieu nous y invite dans cette année, et je me fais juste le porte-parole du Seigneur. Il faut qu'on le laisse nous appeler individuellement à la communion. Ce qui est encourageant, c'est que Dieu a tout mis en œuvre pour cela. Il a donné Jésus. Et c'est le plus beau cadeau que nous ayons reçu, c'est Jésus. Il l'a donné pour que la communion puisse être possible. Puisse être rendu possible. Sans Jésus, sans le sacrifice de Jésus, impossible, même au meilleur des hommes, s'il y en avait un meilleur, de s'approcher de Dieu. C'était impossible. Mais Jésus a ouvert la voie. Il a versé son sang. Et ça devrait nous encourager et dire, mais c'est possible aussi pour moi. Mais oui, mon frère, ma sœur, c'est possible pour toi, c'est possible pour moi. Nous pouvons, puisque Dieu nous le dit, il nous invite, il nous appelle, il nous exhorte. Et il a rendu possible cette communion, il l'a rendu possible. Il a donné donc Jésus qui a versé son sang. Et par la grâce, par la foi, nous pouvons. Il a répandu son esprit qui lui nous rend capables d'avoir cette communion intime, le Saint-Esprit. Il a donné sa parole où il nous ouvre complètement son cœur. Vous savez que quand nous lisons la Bible, Dieu nous ouvre complètement son cœur. Il n'y a rien de ce que nous devions savoir qui n'est pas écrit. Tout ce dont nous devions savoir sur Dieu, sur son œuvre, sur l'avenir, sur le passé, Dieu a tout consigné dans sa parole. Combien elle est précieuse. Donc Dieu nous a donné sa parole pour que nous ne soyons pas comme des aveugles sur un chemin, mais qu'elle soit une lampe à nos pieds et une lumière pour notre sentier. Il nous parle, nous pouvons voir de près et nous pouvons voir de loin avec la parole de Dieu. Il nous avertit, il nous console, il nous a ouvert son cœur. Dieu nous a ouvert son cœur au travers de sa parole. Il nous révèle qui il est. Si nous voulons déjà connaître Dieu d'une manière intellectuelle, en premier lieu, eh bien il faut lire la Bible et découvrir qui est Dieu. Son caractère, ses attributs, Dieu nous parle de son cœur, de ce qu'il aime, de ce qu'il déteste, il nous parle de ses désirs, il nous parle de son plan, tout ça est contenu dans la Bible. Nous avons un trésor, une mine extraordinaire avec la parole. Il nous montre, il nous ouvre son cœur, il nous dit tout de lui, tout. Et ce Dieu trois fois saint, tout-puissant, créateur, désire une relation de père à fils. C'est tout simplement extraordinaire. Et l'exemple dans cette relation d'amour dans l'Écriture, c'est Jésus et son Père. Et là, nous voyons cette relation parfaite. Nous voyons Jésus qui est en communion parfaite. Nous n'arriverons jamais à cette communion-là, mais nous devons y tendre. Jésus a une communion parfaite. Il dit, ce que je fais, je l'ai vu faire au Père. Ce que je vous dis, je l'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas de moi-même, c'est mon Père. Il recevait de son Père, il était enseigné de son Père, et il obéissait parfaitement à ce que le Père lui disait. Mais cette relation, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ça parle, ça. Dès le baptême de Jésus, quand les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe et la voix s'est fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Quelle relation de père à fils ! Un vrai père, un vrai fils. Quelle relation ! Eh bien, c'est la même aussi qu'il veut avec nous, qu'il désire. Il a prévu cela, il a préparé cela, il a mis en œuvre cela. Et il le veut. Vous voyez, ça change que je dois faire ça, je dois faire ça, oh là là, il faut que... Non, il faut que le Saint-Esprit ait un accès, commence à travailler nos cœurs et dire, je veux me tenir dans la présence de Dieu, pas que pour lui demander des choses. Je veux me tenir parce que je l'aime et j'aime sa compagnie. Et je veux me tenir et l'écouter aussi, parce que dans une relation, il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un qui parle tout le temps. Ça vous est arrivé des fois qu'il y en ait un qui parle tout le temps et vous ne pouvez pas en placer. Oui, ça vous est arrivé. Bon. Mais c'est bien quand les deux, on puisse parler et écouter. C'est un respect hein, aussi pour l'autre. Voilà, parler et écouter. Écouter Dieu et lui parler. Lui dire des choses intimes que nous avons sur le cœur, que personne peut-être ne sait, mais Dieu, il veut l'entendre. Il le sait, hein. Mais il veut l'entendre. Ah, c'est cette relation-là que le Seigneur voudrait, car... Alors, au point où nous en sommes, je vais finir là, au point où nous en sommes, nous ne pouvons que faire des progrès, les uns et les autres. Parce que cette relation-là, carrière qui est ouverte devant nous, elle est illimitée. Donc, nous ne pouvons que faire des progrès. Quelqu'un dit, moi, frère, j'en suis là, et je suis pas... Eh bien, tu peux faire des progrès. Un autre dit, moi, j'ai une bonne communion avec le Seigneur, je passe du temps, j'ai des moments... Eh bien, mon frère, Dieu veut encore que tu progresses, et que je progresse, et nous voulons prier les uns pour les autres. Donc, nous ne pouvons que faire des progrès. Peut-être quelqu'un se sent loin de Dieu, mais tu n'es pas exclu parce que Dieu s'adresse à toi. Dans Ésaïe au chapitre 33, verset 13, il est dit « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. » Vous savez, avec Dieu, il ne faut pas 50 ans pour faire des progrès et qu'il nous fasse... voir des choses et aimer sa parole, aimer sa présence. La prière, naturellement, la chair n'aime pas la prière. Naturellement, on n'aime pas. Le temps nous paraît long. Quand, on le sent hein, des fois, c'est la chair n'aime pas. Mais la chair n'aime pas non plus méditer la parole comme ça. Mais le Saint-Esprit nous donne d'aimer. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus, nous révèle sa parole. Alors, je termine. Nous verrons ensemble que cette proximité avec Dieu est la plus belle aventure. C'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus profond sur la terre. Mais cela nous implique totalement. On doit s'y impliquer. Avoir de la détermination, ça implique notre être tout entier. Mais comme nous le verrons, eh bien le Seigneur nous aide, nous secourt. C'est lui qui nous le demande. Et dans cette proximité, il y aura une transformation. Deux êtres, dans le livre d'Amos, ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordés au préalable. Vous voyez, dans cette relation, bon, c'est pas Dieu qui a besoin d'être transformé, mais c'est nous. Et plus nous nous approchons de lui, plus eh bien le Saint-Esprit agit, plus il nous transforme. Et son désir, eh bien, c'est que nous soyons à la ressemblance de Christ. Dans Romains au chapitre 8, verset 29, que Dieu nous aide. Frères et sœurs, c'est possible. Même si on dit, mais moi je prie longtemps, moi je connais l'Écriture. Oui, mon frère, ma sœur, c'est bien. Mais Dieu veut encore plus. Il veut encore mieux. Pour moi, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, dans cette année 2021, pourquoi ne pas dire, ben, je vais faire... On peut dire d'avance, je vais faire des progrès avec le Seigneur. On peut le dire. Si on veut, le Seigneur va nous aider à faire des progrès. Et la qualité aussi de nos rassemblements va changer aussi. Eh oui, nos cultes, nos réunions de prière. Si l'Esprit prend plus de place en chacun de nous, il en prendra au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide à vivre ces temps voulus, désirés par lui. Voilà, que le Seigneur nous aide à... il a tout prévu, tout préparé, donc à nous de le désirer. Et même si on n'a pas le désir, dire Seigneur, crée le désir en moi. Ça va loin, hein. Crée le désir en moi et qu'il y ait une envie qui vienne là et... On va prier le Seigneur.